On va changer de continent et sortir d'Europe pour aller en Amérique du Sud, en Argentine, où, mais ce serait un autre sujet, la libre pensée et l'anticléricalisme font partie de l'histoire de ce grand pays. Vous avez la parole pour nous parler d'une actualité beaucoup plus proche.
Donc, merci d'abord de me permettre d'exposer aujourd'hui les résultats d'une enquête exploratoire et préliminaire qu'on a menée avec d'autres collègues sociologues sur ces bibliothèques populaires argentines. Donc, ce sera peut-être une communication décalée dans le sens où je ne suis pas historienne, je ne suis pas conservatrice, je ne suis pas bibliothécaire, je ne suis pas archiviste. Ça ne fait pas partie de mes thèmes de recherche habituels, je travaille plus sur les questions de lecture publique, mais pour autant, ça me paraissait intéressant de vous présenter aujourd'hui des premiers résultats. J'ai réalisé une enquête de terrain exploratoire auprès de 5 bibliothèques populaires dans la Provence et dans la banlieue de Buenos Aires. Alors pourquoi ces 5 bibliothèques populaires? Parce qu'elles étaient liées entre elles par un programme de coopération très récent avec l'université qui était l'université de General Sarmiento, qui était mon université d'accueil. Et c'est comme ça que j'ai pu finalement pénétrer dans l'univers des bibliothèques populaires argentines et faire une enquête de terrain exploratoire en réalisant un certain nombre d'entretiens auprès de leurs acteurs, donc bibliothécaires professionnels ou bénévoles. Donc aujourd'hui, le territoire national argentin compte environ 4000 bibliothèques populaires. Donc l'Argentine est très grande, mais c'est quand même un nombre assez conséquent. Et ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que les bibliothèques populaires argentines reposent sur ce qu'on appelle les communautés de vecinos. Donc vecinos, littéralement, ça signifie voisin, mais dans ce contexte-là, et c'est quelque chose qui est revendiqué par les acteurs, c'est à entendre au sens de communauté, donc communauté étant entendue comme groupe d'individus liés par des intérêts et des caractéristiques communs. Donc on verra que c'est important. Donc ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles relèvent de la sphère civile, d'initiatives privées, et elles peuvent par la suite s'engager dans un ensemble de démarches pour recevoir une reconnaissance institutionnelle et du coup financière non négligeable par ce qui s'appelle la CONABIP, donc qui est un organe très important en Argentine pour ces bibliothèques populaires, qui est la Commission nationale des bibliothèques populaires, qui a été créée en 1870 et qui dépend du ministère de la Culture. C'est cette CONABIP qui va finalement accorder le statut, l'appellation bibliothèque populaire à ces associations. Elle dispose d'un ensemble de critères que doivent remplir ces associations. Donc si on regarde sur le site de la CONABIP, elle définit une bibliothèque populaire de la façon suivante. C'est une association civile autonome créée par l'initiative d'un groupe de vecinos. Elle offre des espaces de services et de consultation, d'expression et de développement d'activités culturelles, de lecture, sous une forme large, libre et pluraliste. Les bibliothèques populaires sont dirigées et soutenues principalement par leurs membres et offrent information, éducation, détente et animation culturelle au moyen d'un fonds bibliographique et multimédia général et accessible au public. Donc il y a un ensemble de critères, de conditions à respecter pour obtenir cette appellation, et donc finalement la reconnaissance et le soutien financier qui suit. Donc ces critères, pour les dire rapidement, c'est reposer sur l'initiative d'une communauté de vecinos dans un quartier qui est dépourvu de bibliothèques populaires environnantes, être constitué comme association civile à but non lucratif, proposer des horaires d'ouverture minimum de 20 heures par semaine, s'adresser à tous les publics sans distinction ni discrimination, constituer une commission directive. Donc la commission directive, c'est l'ensemble des personnes qui ont en charge du bon fonctionnement de la bibliothèque. Et ce qui est très important, c'est que cette CONABIP nous dit que cette commission directive doit être constituée de personnes de la communauté ou du quartier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, le rapport au territoire et au quartier dans l'histoire et dans la constitution de ces bibliothèques populaires. Et ensuite, bon, disposer d'un espace spécifiquement destiné à la bibliothèque et proposer un fonds bibliographique large, hétérogène et destiné à tous les âges. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si les bibliothèques populaires sont nombreuses sur le territoire argentin et appartiennent à l'histoire argentine, elles sont quasiment méconnues des sciences sociales et des sciences humaines argentines. Avec les collègues avec qui j'ai travaillé, on a eu un mal fou à trouver des travaux sur ces bibliothèques populaires argentines. Elles ne font pas l'objet d'un investissement des sciences humaines et sociales. Et deuxièmement, si on regarde l'enquête sur les habitudes de lecture qui a été réalisée en 2011 par le Conseil national de lecture de Buenos Aires, sur 72 personnes, des personnes interrogées qui affirment connaître une bibliothèque, il y en a seulement 47% qui déclarent connaître une bibliothèque populaire et seulement 31% qui déclare s'y rendre. Donc finalement, c'est un objet qui n'est pas investi par les sciences humaines et sociales et qui reste méconnu quand même d'une partie importante de la population. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de faire une présentation historique avec ce qu'on a pu dénicher comme matériaux, comme sources, sur l'histoire de ces associations, de ces bibliothèques populaires, et ensuite essayer de vous présenter les évolutions, les problématiques actuelles que j'ai pu relever dans le cadre de cette enquête de terrain. Donc le premier mouvement en faveur de la promotion de l'accès à la culture pour le peuple apparaît au XIXe siècle, suite à l'indépendance nationale. Et c'est dans un contexte politique très agité que Mariano Moreno, qui est alors le secrétaire du gouvernement national, annonce l'ouverture de la première bibliothèque du pays, qui deviendra l'actuelle bibliothèque nationale, qui est située à Buenos Aires. Et dans un article célèbre qui est intitulé « Éducation », pardon pour mon accent, « Éducation », il appelle au don de livres et souligne la nécessité de cultiver le peuple, car pour lui, son ignorance est finalement la cause de son oppression. Pour autant, il faut attendre les années 1870 pour voir apparaître un mouvement de création de bibliothèques populaires. Donc la première bibliothèque populaire argentine date de 1866, et c'est Domingo Faustino Sarmiento, qui est alors président de la République, qui va agir en faveur du développement et de la création de ces bibliothèques, comment notamment en créant la CONABIP. Donc il l'a créée en 1870 et son fonctionnement devient effectif en 1872. Donc entre 1872 et 1876, on compte environ 200 bibliothèques populaires. À cette même période, l'institution scolaire va jouer un rôle très important, et ça va expliquer l'apparition aussi de ces bibliothèques populaires. L'institution scolaire va jouer un rôle important dans la transformation de la jeune société argentine entre les années 1870 et 1930. L'État est alors un acteur clé du développement de l'école, avec pour enjeu l'homogénéisation culturelle de celle qu'on appelle alors la jeune Babel, Buenos Aires, donc très diversifiée sur le plan ethnique, entre guillemets, et culturellement et socialement. Et comme deuxième enjeu, une intégration sociale. Donc on assiste en fait à une expansion des classes moyennes grâce à la démocratisation de l'accès à l'enseignement secondaire et une augmentation du lectorat potentiel. En 1914, il y a près de 18% des plus de 10 ans qui sont analphabètes, et ils sont plus que 7% en 1938. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que malgré ces dynamiques de développement, de promotion d'institutions scolaires, les bibliothèques scolaires restent les grandes absentes de ce mouvement. Donc en fait, on assiste à un mouvement, un contexte où l'alphabétisation se généralise, mais où l'accès aux livres reste rare et difficile pour la majorité de la population issue des catégories populaires. Et c'est en fait une des raisons centrales de ces créations de bibliothèques populaires. Pour autant, c'est dans les années 1920-1930, dans la période de l'entre-deux-guerres, qu'émerge une importante dynamique de création de bibliothèques populaires. Cette période est centrale dans la dynamique de création de ces institutions. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où deux initiatives à vocation culturelle se rejoignent. Donc, une première initiative qui repose sur le développement d'éditions de livres à prix bon marché, et l'autre qui concerne directement les bibliothèques populaires. Donc, dans ces années, se met en place un mouvement qui a été qualifié d'entreprise culturelle, qui correspond au développement d'éditions de livres très bon marché à destination des catégories populaires, et un mouvement par lequel les nouveaux quartiers, comme les appellent Gutiérrez et Romero, donc qui sont les deux auteurs de référence, enfin les seuls en fait, sur les bibliothèques populaires argentines, ces nouveaux quartiers qui vont se doter d'institutions propres, parmi lesquelles des bibliothèques populaires. Donc pour comprendre un petit peu le contexte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du XXe siècle, et plus précisément dans cette période 1920-1930, la société argentine, et plus particulièrement les alentours de la capitale Buenos Aires, connaissent des changements physiques, culturels et sociaux importants. Donc on assiste à une augmentation de la densité démographique, un essor industriel, une évolution des strates professionnelles, des vagues d'immigration européenne. Et ces différents facteurs, finalement, vont provoquer l'apparition de nouveaux quartiers. On a une partie de la population qui va alors quitter le centre de la capitale et la Boca pour s'installer dans des quartiers périphériques. Donc ces nouveaux quartiers, ils sont habités par une population qui est hétérogène. On y trouve des professeurs, des artisans, des chômeurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il y a des possibilités d'ascension sociale qui vont provoquer une atténuation du conflit social. On a une augmentation de la distance entre lieu de travail et lieu de vie, qui va générer là aussi un nouveau rapport au quartier, un nouveau rapport au territoire comme lieu de vie. Et le quartier, finalement, devient le lieu de vie, le lieu de détente, et non plus le lieu de travail. Il y a une déconnexion qui se fait entre les deux. Ces quartiers sont récents, ils sont mal isolés, ils sont mal, voire pas desservis par les transports en commun. Et en fait, l'ensemble de ces nouveaux habitants va se doter, par l'intermédiaire de sociétés de développement, des services les plus élémentaires de la vie quotidienne, et va créer un ensemble d'institutions sur lesquelles va reposer la société locale. Parmi ces institutions, on trouve des cellules de partis politiques, des associations, des clubs et des bibliothèques populaires. Et finalement, tout cet ensemble va contribuer à produire une nouvelle forme de culture populaire qui n'est plus axée sur le conflit social, mais qui va plus s'ancrer territorialement. Et ce que nous expliquent ces auteurs Gutiérrez et Romero, c'est que la lecture, le livre et les bibliothèques populaires vont être des acteurs clés de cette nouvelle culture populaire. Donc si on regarde un petit peu ce que je vous ai présenté comme ce mouvement d'entreprise culturelle, donc dans les années 1920-1930, il y a un nouveau projet politique qui se met en place, qui est porté par l'action de militants socialistes, avec cette idée de développer des éditions très économiques à destination des catégories populaires des quartiers émergents, donc de ces nouveaux quartiers. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que la lecture et la diffusion du livre au sein des classes populaires sont des outils d'action et de transformation sociale. À la base de ce mouvement, ce qui apparaît, c'est la volonté de mettre en contact les membres des catégories populaires et les œuvres considérées comme les grandes œuvres universelles. Donc ils vont les mettre au contact des œuvres humanistes. Ils vont distribuer Hugo, Tolstoï, Zola, anarchistes et philosophiques. Et en fait, ils s'inscrivent dans une forme de prescription culturelle à destination des catégories populaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, les demandes et attentes de ces dernières en matière de lecture restent dans un premier temps secondaires. Pour autant, ce mouvement d'entreprise culturelle va développer l'édition à bas prix de romans d'aventure, de nouvelles hebdomadaires, de romans sentimentaux, de poésie, mais aussi de livres relatifs à l'hygiène, à l'éducation, à la notion de couple. Ce qu'on voit dans ce mouvement d'entreprise culturelle, c'est que le projet politique ici n'est plus la contestation, ne porte plus sur le conflit social, mais l'enjeu est l'intégration via le livre et la lecture. Donc si on regarde rapidement les différents objectifs, en fait, les différents projets qui sont défendus par ces intellectuels militants, c'est la promotion d'un individu cultivé qui doit connaître les œuvres classiques, philosophiques, politiques à l'échelle internationale. Une défense du droit à la distraction et au plaisir, avec l'édition, comme je vous disais, de séries policières, de romans sentimentaux, de livres d'aventure. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette place accordée finalement à la distraction marque une rupture avec la conception utilitariste des premières lectures prolétaire du début du siècle, une sensibilisation et une formation des individus aux problématiques sociales, aux conditions de vie, aux conditions de travail, et tout un ensemble de discours, quasiment de propagande, autour des questions d'hygiène, d'éducation, de relations hommes-femmes et du couple. Finalement, la lecture et le livre sont considérés comme des moyens d'agir sur la société, de la réformer. Ils n'apparaissent plus comme les bases d'une culture populaire contestataire, mais réformiste dans lequel le temps libre et la distraction ont leur place. Si je vous parle de tout ça, c'est qu'évidemment, ça a un rapport avec les bibliothèques populaires, puisque l'essor des bibliothèques populaires est concomitant à ce mouvement d'entreprise culturelle. Donc de 1946, entre 1924 et 1930, pour tout le territoire national, leur nombre passe à environ 200 entre 1937 et 1945. Deux groupes sociaux se distinguent dans la création de ces bibliothèques populaires. Un premier groupe qui a un rapport avec la culture écrite, qui est plus familier de la culture écrite, donc on y trouve des journalistes, des professeurs, des employés, et un deuxième groupe qui est composé de groupes de commerçants qui va participer à la mise en place de ces activités, de ces bibliothèques populaires par le financement des activités. Donc dès le début, ces associations vont proposer différentes activités qui sont plus ou moins centrées sur la culture livresque. On proposait bien sûr des conférences, des activités manuelles, des formations professionnalisantes, des fêtes, des jeux, des pique-niques. Et en fait, elles vont ainsi concilier culture érudite et expérience quotidienne des habitants. Elles vont également participer finalement à la constitution d'une élite locale qui se constitue comme telle par son implication dans les activités de ces bibliothèques. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ces bibliothèques sont de plus en plus nombreuses, mais elles restent peu fréquentées. Et peu à peu, la notion de culture va être très élargie et va englober la notion de divertissement, avec cette ambition finalement de ces militants que la bibliothèque devienne une référence locale, qu'elle couvre le temps libre des habitants et engendre une homogénéisation des pratiques culturelles locales. Elles multiplient leurs activités qui sont parfois très éloignées de la culture écrite. Pour autant, le livre reste évidemment, j'ai envie de dire, central, et prend une dimension ne serait-ce que symbolique, car il est considéré localement comme le symbole maximal de la culture et d'une culture qui est digne d'être diffusée et qui doit être valorisée. Ces bibliothèques populaires portent des projets politiques de réforme sociale, de formation culturelle et politique. Comment ? Par la défense d'une intégration des classes populaires grâce à la culture et à la lecture. Ces bibliothèques populaires, comme je vous disais en introduction, peuvent recevoir par la suite un soutien institutionnel qui n'est pas du tout systématique et qui n'est pas garanti à vie. Et ce soutien étatique aux bibliothèques populaires a changé selon les gouvernements et contextes politiques. Et pendant les années de dictature, ces bibliothèques ont connu un ralentissement de leur dynamisme, de leurs activités, faute d'un soutien institutionnel pérenne. Ce qui est intéressant de voir, et là, par contre, on n'a pas encore les éléments de réponse, c'est que l'âge d'or des bibliothèques se situe entre les années 1920 et 1930, cette période d'entre-guerres dont je vous ai parlé, et reprend à partir des années 90. C'est-à-dire que les bibliothèques populaires qu'on a pu visiter et celles que j'ai pu visiter personnellement, soit ont quasiment 130 ou 140 ans, soit ont une vingtaine d'années. Et en fait, il y a une espèce de creux, une période comme ça, qui n'est pas travaillée par les historiens, qui n'est pas travaillée sur les sociologues. Comme on a engagé un projet de recherche sur 3 ans, peut-être que si vous refaites un colloque dans 3 ans, j'aurai des éléments de réponse à vous apporter. Voilà, donc il y a un essoufflement entre les années 1930 et les années 1990. Ce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui, c'est que l'Argentine connaît une récente vague d'institutionnalisation en faveur de la promotion de la lecture, ainsi qu'un intérêt croissant pour l'ensemble de ces problématiques et ces institutions, dont les bibliothèques populaires. Et il y a de plus en plus de formations qui sont mises en place à travers cette CONABIP, à destination des bibliothécaires professionnels et des bénévoles, ainsi qu'un ensemble de partenariats entre différentes institutions pour maintenir et soutenir ces actions des bibliothèques populaires. Si on regarde ce qui se passe actuellement sur ce terrain argentin au sujet des bibliothèques populaires, je vous disais, c'est vraiment des résultats préliminaires d'une enquête exploratoire, donc on n'a pas toutes les réponses, vous aurez peut-être beaucoup de questions, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a une évolution qui a souligné concernant la constitution des collections. Donc ce qui a été très étonnant pour moi, après avoir découvert cette histoire des bibliothèques populaires, c'est que les collections des bibliothèques visitées se caractérisent par un éclectisme très important, mais pas structuré et parfois quasiment sans cohérence. Donc on y trouve énormément de manuels scolaires, qui représentent quasiment 50% des fonds. Beaucoup de manuels scolaires, on trouve la littérature mondiale, classique comme contemporaine. On trouve beaucoup de romans considérés comme appartenant au registre populaire ou entre guillemets commerciaux. Et beaucoup de livres qu'on appelle en Argentine « auto-ayuda », donc le « self-help ». Quand j'ai discuté avec ces bibliothécaires comme ces bénévoles sur finalement qu'est-ce qui avait sa place dans ces bibliothèques populaires, qu'est-ce qui n'avait pas sa place, la question de la prescription culturelle qui était quand même présente, bien sûr, dans l'histoire de ces bibliothèques populaires au début du XXe siècle, a quasiment disparu. Si on regarde un peu ce qu'ils nous disent, je cite un bibliothécaire, « La bibliothèque doit fournir aux gens ce qu'ils demandent. Si un livre est demandé, il sera acheté. » Un autre qui me dit « On n'est pas là pour décider ce que les gens doivent lire, ce qui compte, c'est qu'ils lisent. » Ou encore un autre « On essaye d'acheter les livres demandés, le plaisir est central, il faut que le livre soit agréable dans la nouveauté. » Et en fait, ce qui pourrait passer pour des paroles bien pensantes se traduisent concrètement par des cahiers de lecteurs dans lesquels les gens font des demandes. Et c'est avec ça que les bibliothécaires vont chaque année à la Feria del Libro. Donc la Feria del Libro, c'est notre salon du livre. Ils disposent de réductions de 50% sur le prix de vente des livres grâce au soutien de la CONABIP. Et ils vont acheter l'ensemble des livres qui leur a été demandé. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les attentes et besoins des usagers apparaissent pour ces acteurs comme le principal critère de constitution du fonds, dépassant ainsi les frontières légitimes et illégitimes qui sont si présentes finalement dans le champ culturel. En ça, il me semble qu'on peut dire que ces bibliothèques défendent une légitimité sociale et non pas intellectuelle, pour reprendre Anne-Marie Bertrand. La bibliothèque n'est pas considérée comme un moyen de dépasser une domination d'une culture savante inaccessible, comme ça a pu être le cas, mais elle n'est pas non plus le moyen de contrer les dominations des industries culturelles entre guillemets, de masse. Quelque chose qui est très présent dans le discours des bibliothécaires français que j'ai pu rencontrer. Bon, le cadre de la lecture publique, mais c'est intéressant les parallèles. Mais finalement, l'enjeu, c'est de proposer des biens culturels qui sont finalement absents des institutions scolaires et qui sont inaccessibles économiquement à la plupart de la population. Il faut rappeler que le prix du livre en Argentine est très élevé par rapport au salaire moyen. Par ailleurs, il faut rappeler aussi que les bibliothèques populaires visitées se situent dans des quartiers dits « populaires », où on trouve quand même des populations qu'on peut qualifier de classe moyenne. Mais les établissements scolaires de ces territoires sont des établissements publics qui sont dans un état d'abandon considérable, où il n'y a pas de manuel scolaire et où les professeurs, pour faire cours, doivent faire des photocopies sur un livre qu'ils ont depuis plusieurs années. Et dans ce contexte-là, en fait, la bibliothèque populaire apparaît comme la ressource principale, faute d'une bibliothèque scolaire et faute même de manuel scolaire, pour ces établissements. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette volonté de ne pas s'inscrire dans une prescription culturelle, présente chez les bibliothécaires comme les bénévoles, apparaît à mon sens comme une revalorisation, une tentative de revalorisation de pratiques culturelles identifiées comme populaire. Donc cette revalorisation, elle peut être soutenue par exemple par la mise en place d'ateliers d'écriture, de rédaction de journaux qui vont être diffusés à l'ensemble du quartier auquel va être donnée une publicité. Et à mon sens, il faut y voir aussi les conséquences des relations de proximité et des relations horizontales qui sont entretenues entre ces acteurs des bibliothèques, bibliothécaires comme bénévoles, et l'ensemble des résidents, usagers ou non de la bibliothèque par ailleurs. Puisque je vous disais que finalement, ce qui est central dans l'histoire de ces bibliothèques, c'est non pas un sentiment commun d'appartenance à une classe sociale, mais un sentiment commun d'appartenance à un territoire. Et finalement, ces acteurs des bibliothèques populaires ne se définissent pas comme des intervenants, mais se définissent comme au service, ce sont leurs propres termes, au service de la communauté, de la population du quartier. Dès leur début, elles proposent tout un ensemble d'ateliers, d'activités parfois éloignées de la culture écrite. Ces activités sont aujourd'hui très présentes. L'ensemble des bibliothèques visitées propose beaucoup d'ateliers, que ce soit du cirque, du théâtre, du yoga, de la gravure, du chant, du jardinage. Ces acteurs des bibliothèques défendent la présence et le maintien de ces ateliers en expliquant que ça constitue une dimension à part entière et totalement légitime de la bibliothèque et que finalement l'enjeu n'est plus tellement de produire une forme d'attractivité pour l'institution pour ramener au livre, mais ce sont deux activités à part entière de la bibliothèque. Finalement, il me semble que ces bibliothèques populaires argentines permettent de dépasser les clivages qui sont souvent pensés dans les oppositions binaires savants-populaires, légitimes-non-légitimes. Et finalement, elle s'appelle bibliothèque populaire, mais elle se rapproche beaucoup de ce qu'on pourrait appeler un centre culturel. Sur la question du militantisme, de l'engagement politique, contrairement aux pionniers de ces bibliothèques populaires argentines, aucun, quasiment, des acteurs rencontrés ne se déclare comme militant. Il y a seulement une bibliothèque parmi celles visitées dont une partie de la commission directive est constituée de membres engagés dans un groupe politique péroniste qui ne s'en cache pas, mais qui refuse de revendiquer cette casquette de militant au sein de la bibliothèque quand ils sont bibliothécaires ou bénévoles. Donc cette question d'une revendication militante a disparu en tout cas de l'identité de ces acteurs. C'est pourquoi ils refusent de s'inscrire dans une politique qu'ils appellent partisane. Ils défendent un pluralisme politique et refusent de s'engager dans telle ou telle direction politique au sein de la bibliothèque, à la fois à travers la constitution des collections, à travers les activités. Pour eux, finalement, il ne s'agit plus tant de former politiquement que de proposer un lieu de rencontre et de ressources, ressources livresques, culturelles, pour combler finalement les défaillances d'un système éducatif, culturel, qui leur apparaît comme pauvre et défaillant dans des territoires qui sont encore très fortement marqués par des dynamiques de paupérisation, de précarisation, de violence, mais aussi de drogue. C'est une réalité qui fait partie de ces territoires. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement l'enjeu pour ces bibliothèques populaires, qui travaillent beaucoup avec les institutions scolaires pour les raisons que j'ai déjà évoquées, n'est pas du tout de promouvoir un rapport à l'écrit, un rapport au livre qui serait différent de celui véhiculé par institutions scolaires, qui ne s'inscrit pas dans la même opposition finalement que ce que je retrouve en France entre une opposition lecture-plaisir versus lecture-devoir. Mais en fait, l'enjeu est de donner accès au livre. Le livre reste un objet rare et coûteux dans la société argentine. Si l'État argentin s'engage quand même dans une politique de promotion, de défense et de maintien de ses bibliothèques, elle continue de rencontrer malgré tout des difficultés très importantes, des difficultés financières, puisque malgré les fonds qui leur sont octroyés, elles reposent principalement sur les cotisations et la participation des usagers, mais qui sont minimes pour permettre justement un accès le plus large possible. À titre d'exemple, chaque année, quand ces bibliothèques populaires vont constituer leur collection en allant à la Feria del Libro, en général, elles ne peuvent pas ramener plus de 70 livres. Donc c'est-à-dire que c'est 70 livres qui rentrent dans l'année. Donc ça donne des collections qui sont parfois très obsolètes, avec des manuels scolaires qui ont encore la carte de l'URSS, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, et du coup, un décalage parfois avec les demandes des habitants qui veulent la dernière saga de tel livre de fantasy, mais qui est absolument hors de prix et inaccessible pour ces bibliothèques. De plus, elles ont souvent des problèmes de locaux. Les bibliothèques visitées s'installent dans des locaux qu'elles louent, et parfois qui ne sont pas du tout pensés pour recevoir des bibliothèques. Certaines sont dans les locaux d'un ancien restaurant, certaines sont dans les locaux d'une maison particulière. Donc ça aussi, ça pose des questions de pérennité et finalement de dynamisme sur le long terme. Voilà, je vous remercie.
Merci. Vous allez rester là.